8 décembre 1996, cours de Raveman Shir Hashirim.
Cinquième verset du deuxième chapitre. Samchuni ba ashishot, rapeduni ba tapuchim, ki cholat ahava ani. C'est ça. C'est par cœur, c'est encore mieux. Il y a des textes. Pas de texte. Il est dans la voiture. Alors, on va essayer de traduire. Samchuni. Si on traduit littéralement, Samchuni ba shishot. Aidez-moi. Ou guérissez-moi, donnez-moi un remède, achichot, on traduit ça, ou des galettes, ou des raisins. C'est ce qu'on donnait à quelqu'un de malade. Rapeduni batapuchim. Rapeduni, entourez-moi, batapuchim. Des pommes. C'est pour donner une bonne odeur. Ki cholat ahava ani. Alors là, il faut bien faire attention pour traduire ces trois mots. Ki cholat ahava. Car je suis malade ahava d'amour, ani moi. Voilà la traduction littérale du verset. Donc encore une fois, Samchuni ba hashishot, donnez-moi des hashishot, des galettes pour guérir. Rapeduni ba tapuchim, entourez-moi de pommes. Ki cholat ahava ani, car je suis malade d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, malade d'amour? Si on regarde Rashi, Rashi dit Ki chola ani le ahavato, ki tsameti lopo begaluti. Alors attention. Chola ani, je suis malade, le ahavato, de ne pouvoir l'aimer. Ki tsameti lopo, car j'ai soif de lui, de Galouti, dans mon exil. Donc là, j'y traduis Cholata'ava. Je suis malade de ne pouvoir l'aimer. Il s'agit donc de nouveau du peuple juif qui s'adresse à Dieu. D'après Rashi, qui Cholata'ava, Cholani la'avato, je suis malade de ne pouvoir l'aimer. Donc ici on voit que Rashi a appris que la galoute, ça se concrétise par un manque de pouvoir exprimer l'amour que le peuple juif porte à Dieu. Ça, c'est le premier pshat. Mais il va falloir savoir pourquoi. Dans le Midrash, il est écrit un autre pshat. Amra Knesset Israël Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Voilà ce que dit le peuple juif à Dieu. Kol Chalaim Shata Mevi Alai Bishvil Ahava Shahav Tilcha. Tous les mots que j'endure, on va dire, entre guillemets, même ceux que Dieu amène au peuple d'Israël, viennent du fait de l'amour du peuple juif pour Dieu. Pourquoi je dis même? Parce que dans la deuxième interprétation, le Midrash dit que tous les malheurs que les peuples de la terre amènent sur moi viennent du fait de mon attachement à Dieu. Donc dans le premier pshat, on voit que le Midrash a appris, ce n'est pas seulement les malheurs que les nations amènent au peuple juif qui viennent de son attachement à Dieu, mais même les malheurs que Dieu amène au peuple juif viennent de son attachement à Dieu. Alors il faudrait comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire. Alors on va commencer par le pshat de Rashi. Rashi vient et dit voilà, de quoi le peuple juif souffre dans la galoute, de ne pas pouvoir exprimer son amour pour HaKadosh Baruch Hu. En vérité, ça va à l'encontre d'un texte qui est écrit au début du Midrash sur la Megillat Echa. Il est écrit dans le Midrash sur la Megillat Echa. Yoter et Midali Tzadikim Bechorbana Mi Bembinyana. On va essayer de traduire. Le peuple juif a produit plus de tzadikim pendant l'époque de la destruction, donc l'époque de la galoute, Mi Bembinyana, que pendant l'époque où la royauté existait en Eretz Israël. Donc on voit le contraire. On va essayer d'expliquer. Donner un sens à la galoute, c'est une chose facile. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans différents endroits, la Gemara parle de la raison de la galoute. La Torah elle-même, dans deux endroits, en parle aussi. Donc de dire que la galoute, c'est la conséquence du fait que le peuple juif n'ait pas rempli sa fonction sur sa terre, ça tout le monde le comprend. Mais il y a quelque chose de plus que ça. C'est ce que, si la galoute a une fonction rédemptrice, parce qu'il faut croire que si la conséquence de l'inconduit du peuple juif, c'est la galoute, de deux choses l'une. Ou ça veut dire qu'il est plus adapté à la galoute. Quand j'ai une chaussure qui est trop grande pour moi, alors même une chaussure qui va à mon pied. Ou alors, en vérité non, c'est le contraire. On n'est pas du tout adapté à la galoute. Seulement quoi? Si dans tes propres chaussures tu ne te sens pas bien, on va te mettre à l'étroit. Et après tu constateras que c'était mieux avant. Ça c'est une fonction qui est rédemptrice. Il est évident qu'il y a les deux. Parce que celui qui a besoin de rédemption, c'est celui qui n'est pas à l'aise là où il est. Et la rédemption elle-même, elle est exactement adaptée à la situation de la personne. Sinon, il n'y a pas de rédemption. Donc dans la galoute, il y a deux choses. il y a le fait qu'il y a une inadaptation du peuple juif sur sa terre. Mais il sera inadapté à la galoute aussi, puisque la galoute est là pour essayer de lui montrer comment ça devrait être bien sur la terre. Ces deux significations sont marquées les deux fois. Dans le Midrash sur la Megillat Echa, il est écrit que la galoute, c'est pas la fin du peuple juif. Au contraire, c'est pour donner des possibilités au peuple juif qu'il n'a pas saisi au moment du Binyan, au moment où ça marchait bien. On expliquera comment. Ici, il y a marqué le contraire. Il y a marqué qu'on a peut-être besoin de la galoute. C'est peut-être le médicament. Mais c'est une situation anormale pour nous. On va essayer d'expliquer la première chose. Le lien d'un peuple avec sa terre, c'est un lien de normalité. C'est-à-dire, chacun a besoin d'un espace pour pouvoir se développer sans être tributaire ou d'une autre philosophie, ou d'une autre loi, ou d'une autre force. Le développement de la personne passe par son indépendance. Mais on remarque que le développement de la personne passe aussi par la pression qu'on exerce sur elle. Et là, on va assister à un paradoxe. Normalement, plus on laisse libre quelqu'un, et plus il est à même de se développer. Mais on assiste souvent au contraire aussi. Plus on met quelqu'un sous pression, et mieux il arrive à se développer. Alors qu'est-ce qui se passe ici exactement? Prenez un enfant. Si vous ne le mettez pas devant des choix, il n'aura jamais la possibilité de se développer, d'exprimer ce qu'il a, ce qu'il peut faire. Il ne pourra pas se construire. Mais si vous le laissez libre et vous ne mettez aucune pression, alors les choix sont inutiles aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'un homme a besoin de liberté pour pouvoir exercer des acquis. Mais il a besoin de pression pour pouvoir avoir accès à ces acquis-là. Ça veut dire que la liberté, c'est quelque chose que l'on donne à quelqu'un pour pouvoir développer ce qu'il a en lui. Parce que sinon, ce qu'il a en lui, il ne trouve aucune expression. Mais il faut d'abord qu'il ait quelque chose en lui. Si quelqu'un n'est pas mûr et qu'on le laisse libre, il va exercer une liberté sur quoi? Sur des notions qu'il ne possède pas. Donc on est obligé avant de lui inculquer ces notions-là. C'est exactement l'histoire du peuple juif. Le peuple juif est sorti d'Égypte. Il s'est formé en tant que peuple. Et on lui a promis une terre. La terre, c'est le terrain du choix, de l'indépendance. On va te mettre devant des choix. Et maintenant, tu vas pouvoir réaliser ce dont tu es capable. Et puis on s'aperçoit que commence la mésentente, la guerre. Les choix qui sont donnés ne révèlent pas ce qu'ils devraient révéler. Alors on est obligé de revenir à un stade qui est stade de l'élaboration des données avant de leur donner le moyen de s'exprimer. Yoter et Midali Tzadikim Bechorbana mi Bevinyana. La pression de la galoute, la difficulté de la galoute, a fait éclore des choses que n'a pas réussi la terre d'Israël à faire éclore. Parce que la terre d'Israël n'est pas là pour faire éclore, elle est là pour faire exercer ce qui existe dans le peuple juif. Ça, c'est le sens de la galoute. On a déjà expliqué souvent que le sens de la liberté, c'est de pouvoir exprimer des choix et justement pouvoir ne plus avoir de liberté. La liberté, c'est une proposition à chacun de faire ses choix et donc de se priver soi-même de cette liberté et de se définir d'un côté ou de l'autre côté. Mais celui qui reste libre est nul. Si je n'ai toujours pas décidé si je vais à droite ou à gauche, c'est que je n'ai rien fait, je n'ai pas évolué. Je n'ai rien exprimé, je suis incapable. Ah, j'ai choisi la droite, bon, c'est peut-être faux, mais moi j'ai choisi. Ça veut dire que la liberté, c'est un outil dont on peut se servir, dont on doit se servir, dont il est nécessaire de servir, pour pouvoir exprimer et devenir ce qu'on pense pouvoir devenir. Avant, on ne peut pas mettre la personne devant des choix. Vous êtes dans une classe, vous êtes obligé d'expliquer et de forcer l'élève à vous écouter. Une fois qu'il vous a écouté, et que lui pense qu'il a assimilé la leçon, alors on lui donne des exercices. Maintenant, il va voir s'il possède la leçon ou non. Eretz Israël, c'est l'exercice du peuple juif. La galoute, c'est la leçon. Vient le Midrash et dit, on a observé que lorsque le peuple juif est en train d'apprendre, il y a plus de gens qui peuvent éclore de cette situation-là que lorsqu'on le laisse en état de faire l'exercice. Maintenant, on arrive à comprendre à peu près ce que ça veut dire. Mais ça va très très loin. Parce que ça voudrait dire qu'une des nécessités de la galoute, c'est de développer ou des connaissances ou des qualités qui ne pourraient pas être développées en Eretz Israël. C'est bizarre. Et bien c'est toute l'histoire de Hanouka à Rabotai. Celui qui a un petit peu compris l'histoire de Hanouka, c'est exactement ça. Il est écrit dans les Hidrot. Afalpi. Chez Goufa, chez le Torah, Nitna de Sinaï. Bien que le corps de la Torah ait été donné au Sinaï. Adara, petit farta, chez le Torah. Le Nitna et la Bebaïcheni. On va dire la splendeur, la gloire, l'éclosion de la Torah n'a eu lieu qu'au temps du deuxième temple. Au temps du deuxième temple, il faut savoir comment ça a eu lieu. Malheureusement, ça a eu lieu d'une façon bizarre. Si on prend le premier verset de Bereshit, il est écrit là-bas, « Ve'aretz, la terre aïta tohu. » Tohu, c'est le vide. Vavou. Vohu, c'est ce qui n'est pas possible de déterminer. Quelque chose qui n'est pas défini. Rocher, obscurité. Alpé, Tohom. Tohom, on traduit normalement l'abîme. Dit le Midrash, ces quatre expressions, ce sont les quatre galouillottes que doit subir le peuple juif. La première galoute, c'est galoute Babel. Puisque, il faut savoir que la galoute d'Égypte n'est pas comptée, puisque le peuple juif n'a jamais existé en Égypte. Il n'a existé qu'au sortir de l'Égypte. La deuxième galoute, c'est la galoute de Madaï, les Mèdes, les Perses. Troisième galoute, Zougalout Yavan, c'est la galoute des Grecs. Quatrième galoute, la galoute des Édoms. Édoms, on pourrait traduire Rome. C'est la galoute où nous nous trouvons. Tout va vous. C'est le fait de ne pas percevoir les choses. Ça veut dire que la galoute de Babel et de Madaï et du temps de Nabucodonosor et après du temps d'Assyrie. C'est l'époque de Pourim. C'est ce qu'on appelle le Esther Panim. Esther Panim, ça veut dire que on ne perçoit pas la conduite de l'histoire par Dieu. On a l'impression d'être abandonné. Mais ça ne touche que la perception. Tohu vavohu, c'est un problème de perception des choses. Rocher, l'obscurité, c'est pas que c'est moi qui perçois pas. C'est que c'est obscur. Je ne peux pas percevoir. Tom, l'abîme là où on tombe, c'est pas moi qui pense tomber. C'est que je tombe vraiment. C'est pour ça que la dernière galoute, ce sera la pire. Il y en a déjà remarqué que c'était la pire nettement. Ça s'appelle Tohom. Surtout pas que ça n'a pas de fond. Ça qui est marqué. Lo Nidgala Kitsam. On ne connaît pas la fin. La troisième galoute, celle qui nous intéresse maintenant, c'est la galoute de Yavan, la domination grecque. Ça s'appelle Rocher. Et le Midrash dit, pourquoi Rocher l'obscurité? Zou Malchut Yavan Shir Shicha Eineyem Shel Israel Big Zerota. Voici la galoute de Yavan, la Grèce, Shir Shicha. On va dire qu'il y a obscurci Eineyem Shel Israel, les yeux d'Israël, Big Zerota par leur décret. Irshichu Eineyem Shel Israël, empêcher de voir, c'est l'expression classique des Chachamim pour dire empêcher d'étudier. Vous allez retrouver le même mot dans un sens inverse qu'on dit à Hanouka dans le Halan ici. Le Hashkicham Toratera. Shocheach, oublier, c'est le mot Rocher à l'envers. Obscur. Le Hashkicham Toratera. Leur faire oublier. Maintenant, vous allez comprendre que la Gemara dans le traité de Yuma nous dit que la première machloket, la première discussion à propos d'une halakha de la Torah orale, dans laquelle aucune discussion n'était jamais tombée, a eu lieu au moment de la domination grecque entre Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan. C'est la première machloket, la première discussion. Pour l'instant, tout était clair. La Torah orale était retransmise exactement depuis Moshe jusqu'à leur époque, sans discussion. On dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'il y a eu une discussion ? Shelu Shimshu et Rabam Kol Tzorka. Ils n'avaient pas assez de proximité envers leur maître, et c'est pour ça que lorsque le maître a dit quelque chose, chacun a compris d'une façon différente. D'où vient ce manque de proximité ? Des xérotes, des problèmes qu'a causé la domination grecque, c'est ce que nous disons la Shkicham Torah Techa, de leur faire oublier l'interdiction d'étudier la Torah. Paradoxalement, nous avons un principe dans la Torah que plus il y a d'avis, je parle d'avis autorisé, pas d'avis. Chacun peut donner son avis, ça ne veut pas dire que c'est un avis. Plus il y a d'avis, et plus il y a de compréhension de la Torah. Ce qui est écrit dans la Gemara, dans le traité de Gittin, au nom du prophète Élie, Eliyahu Hanavi, qui a dit ceci, « Afalpi she'elu meta'arim ve'elu metamim » Bien que les uns disent qu'une chose est pure et l'autre est impure, et les autres disent que la même chose est impure. « Afalpi she'elu osrim ve'elu matirim » Bien que les uns disent que cette chose peut être interdite, alors que pour la même chose, les autres disent qu'elle peut être permise. Elu velu divrei Elokim chayim. Les uns et les autres sont l'expression Elokim chayim du Dieu vivant. Ça veut dire que la Torah supporte diverses interprétations. Et toutes ces interprétations sont vraies, c'est chacun un reflet de la même vérité. C'est ce que nous appelons la machloket, la discussion. La discussion ne veut pas dire la dispute. Tant qu'il n'y a pas eu la Galout Yavan, il y avait continuité, et il y avait donc dans la continuité la pauvreté de la continuité. Au moment où la Torah a eu des difficultés d'être transmise à cause de la Galout de Yavan, ces difficultés-là ont généré l'éclosion de différents aspects. Et au contraire, c'est ça ce qui a marqué Oda Vetifarta, ça veut dire que c'est là qu'on a vu la plus grande expression possible de la Torah. Maintenant, on voit les deux fonctions de la galoute. C'est vrai qu'il y a un appauvrissement, parce qu'il y a une privation de choix. Tu ne peux pas étudier. Il y a une pression. Mais d'un autre côté, grâce à ça, il y a la possibilité que de nouvelles formes puissent se créer. Là, il faut bien comprendre que tout en étant négatif dans la forme, c'est-à-dire dans la pression exercée, dans les malheurs endurés, dans les difficultés qu'on doit surmonter, c'est positif dans le sens de l'évolution du peuple juif. Quelle est la vraie machloket ? Quelle est la vraie discussion ? On va dire la vraie guerre qu'il existe entre Galout Yavan et le peuple juif. C'est ce qu'on a déjà une fois expliqué. Que le chiffre 10 dans la Torah veut dire ou veut donner l'expression de possibilité. Lorsqu'on dit 10, ça veut dire que tu as toutes les possibilités qui te sont offertes. Be Asara Ma'amarot Nivra Aolam. Le monde a été créé par 10 paroles. 10 fois, vous verrez dans Bereshit, Vayomer Elokim, Dieu a dit. Be Eser Divrot. Par 10 paroles, la Torah a été donnée. Quelle est la différence entre un Mahamar et un Dibour? Le mot le Daber veut dire parler. Omer, Mahamar, Vayomer veut aussi dire parler. Quelle est la différence? Le mot le Daber, c'est adresser à. Le mot Omer veut dire dire. Je peux dire tout seul. Mais lorsque je suis Medaber, je suis Medaber El. Vaidaber Hashem El Moshe. Les morts, voilà ce qu'il a dit. Donc l'adresse, ça s'appelle Dibour. Le dire, la parole elle-même s'appelle Amira. On est d'accord? C'est pour ça que dans les... Pardon? Absolument. Donc là, on voit que c'est pas adressé. Chaque fois que vous venez Vayomer, ça veut dire que ça ne s'adresse pas à Moshe. Lorsqu'il y a un Vaidaber, alors ça passe par Moshe Rabbeinu. Alors attention. On va essayer de continuer. Il ne faut juste pas perdre un petit peu le fil. Dans les brachot de la Haftara, on le dit. Omer veose, medaber ou mekayem. Omer veose, celui qui dit et qui fait. Medaber, celui qui s'adresse. Ou mekayem, et qui respecte sa parole. Omer veose, j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais. Medaber, j'ai dit à quelqu'un que je le ferai, me kayem, je suis celui qui est crédible. D'accord? On continue. De Asara Ma'amarot. Le monde a été créé par 10 paroles. Dieu s'est adressé à personne. Il a dit, la nature ne s'adresse à personne. La volonté de Dieu qui existe dans le fait que la nature a des lois, ça ne s'adresse à personne. C'est une amira, c'est un fait. Plus on étudie la nature et plus on voit qu'il y a une volonté derrière tout ça qui rend toutes ces lois de la nature immuables. On appelle ça chez nous une amira. C'est une volonté de Dieu qui se traduit par une amira, c'est une parole. Les choses doivent être comme ça, elles seront comme ça. Elles changeront jamais. Dibour, c'est aussi l'expression de la volonté de Dieu. Mais ça s'adresse à l'homme. Ça veut dire que le dibour laisse un choix, alors que la amira ne laisse pas de choix. On ne peut pas aller contre la nature. Parce que la fonction de la nature, justement, des lois naturelles, et du monde tel qu'il a été créé, tel que nous pouvons le voir, c'est qu'il est immuable, inéluctable. Il sera toujours comme ça, il ne changera jamais. Alors que, Aseret HaDibrot, les paroles, c'est des propositions. c'est-à-dire que la volonté de Dieu est reconnaissable dans la mitzvah. On me demande, on s'adresse à moi, on veut. Là, c'est le contraire, il y a un devenir. Il y a un choix, il y a une possibilité. Vous comprenez? Ce dont on a dit, des deux fonctions de la galoute, vous allez retrouver là aussi. Il y a la Amira. Là, tu peux qu'apprendre. Tu veux étudier n'importe quelle science, tu apprends. C'est tout ce que tu peux faire. Changer, tu peux pas. Intervenir, tu peux rarement. Et si tu peux intervenir, c'est simplement en développant ce que tu as appris. La sagesse grecque, c'est la sagesse de celui qui apprend de la Amira. Celui qui, avec toute sa sagesse, n'aura jamais aucun choix. Il n'a pas d'avenir. C'est le culte de ce qui existe. Le futur n'existe pas. Il n'y a d'avenir qu'à travers la Amira. Ça veut dire que tu peux aller de plus en plus vite. Tu peux utiliser les lois de la nature d'une façon de plus en plus performante. Mais tu ne peux pas les dépasser. Ça ne veut rien dire. C'est la soumission totale aux lois de la nature. Selon celui qui sait bien se soumettre, c'est aussi bien utilisé. C'est-à-dire que le maximum de ce que tu peux arriver, c'est à tellement bien connaître les Amirot que tu as tout compris et tout appris. Voilà le maximum. Ce qu'on appelle la philosophie. C'est-à-dire que tu vas cerner quels sont les systèmes, comment ça marche, système de pensée, système d'action, système de morale. Voilà ce qu'on peut faire. Mais c'est la soumission absolue. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un petit peu d'Avodah Zara là-dedans. Parce que la Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est la soumission absolue à la matière. On n'est pas soumis à la volonté divine. On est soumis encore à une volonté intermédiaire, et encore intermédiaire, et encore intermédiaire. Plus on se soumet à des intermédiaires, et plus on est proche de la Avodah Zara. C'est pour ça que ça s'appelle Avodah Zara, étrangère. Étrangère à la notion de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut être étranger à la notion de Dieu? La nature. La soumission à ce qui est naturel. Tu vas amener un sacrifice à tel et tel Dieu qui est celui qui dirige telle et telle chose dont tu as besoin, et tu rentres dans un nouveau circuit. Chaque fois qu'on se soumet à une nature, on appelle ça la Avodah Zara. Comme ça, vous pourrez comprendre qu'il est écrit dans le traité de Shabbat, dans le 13e Pérek. Kol HaKoes, tout celui qui se met en colère, qu'il ouvre la Avodah Zara. C'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Parce qu'il se soumet à sa colère. C'est une soumission à une nature. C'est pour ça que toute la sagesse grecque n'a jamais été libérée de ce principe d'Avodah Zara. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de devenir pour l'homme. Il n'y a qu'une amélioration de l'habitat dans ce monde. Vous pouvez améliorer l'habitat, mais vous ne pouvez pas faire plus. Ça qu'on a déjà dit, que la différence essentielle qui existe entre Socrate et Moshe Rabbeinu, qui a l'air péjorative pour Moshe Rabbeinu, au contraire, c'est tout le sens de la vie. c'est que Socrate, avant de mourir, on lui a demandé est-ce qu'il veut adresser une supplique ou est-ce qu'il a quelque chose à demander. Il a dit qu'il n'y a rien à regretter dans la vie parce qu'il n'y a rien qui vaut la peine d'être vécu. C'est-à-dire que le sage, c'est celui qui a compris qu'il est au-dessus de tout et qui ne cherche rien, qui n'attend rien. Donc il n'a même pas demandé de vivre. Ça ne dérangeait pas de mourir. Il n'attend rien de personne. Il n'a pas besoin de vivre. Pour le grec, c'est la sagesse absolue. Tu es au-dessus de tout. Moshe Rabbeinu, le pauvre, on lui a dit qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. La Gemara dit, pourquoi est-ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël? Pour faire les mitzvot, qui sont les mitzvot d'Eretz Israël. Il a pleuré, il a supplié. Il a adressé plus de 400 prières à Kadosh Baruch Hu. Il veut rentrer en Eretz Israël. Au moins, il fallait mourir, il a pleuré. Il dit, tu veux la différence? Voilà un sage. On dit qu'il va mourir. Il n'y a rien qui le dérange, il est au-dessus de tout. Moshe Rabbeinu, il serait en dessous de tout. C'est que pour le juif, il a un rapport avec le dibourg, avec la volonté divine. Plus tu arrives à exercer de la volonté divine, et plus tu as un avenir, plus tu grandis. Alors que l'autre n'a de rapport qu'avec la Amira, avec aussi une volonté, mais une volonté qui rend les autres les choses statiques, les choses immuables. Donc plus je m'en dégage, et plus je suis libre. Ça, c'est l'opposition. C'est la raison pour laquelle les Grecs n'ont jamais cherché ni à servir physiquement, ni à exterminer le peuple juif. Ils ont cherché à détruire la culture juive. C'est ça que le Rambam dit, la troisième galoute, c'est la galoute de la Chochmat Israël. C'est la galoute de la sagesse d'Israël. Paradoxalement, c'est au moment de cette confrontation-là qu'a pu éclore la Torah orale. Et plus il y a d'avis dans la Torah orale, bien que cela vient du manque de relation avec le maître. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire exprès. Parce que c'est un manque. Mais c'est ça qui donne la possibilité à la Torah de s'exprimer ou d'exprimer plus de vérité. Yoter emidali v'chorbanam mi bevinyanam. Lorsqu'il y a la pression, ça marche mieux. Donc maintenant on comprend un petit peu ce que veut dire Rashi. Lorsque Rashi dit qui cholat ahavani, la galoute s'est faite pour apprendre. Mais à la fin, on veut exprimer. On en a assez d'apprendre. On a assez d'écouter les leçons. On veut aussi liberté. On veut aussi pouvoir s'exprimer, pouvoir être. Pas subir. C'est ça le sens de Kicholat Ahavani. Maintenant, on va comprendre aussi le Midrash. Le Midrash dit Kicholat Ahava. Il y a Khalaim Shatam Vialai. Même ce que tu m'amènes comme difficulté, le Havan il Khaim, c'est pour que je puisse t'aimer. Je suis malade de mon attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Je suis obligé de passer par la galoute parce que c'est ça mon attachement à Kadosh Baruch Hu. J'aurais pu dire, moi ça ne m'intéresse pas. celui qui n'a pas d'avenir, qui n'espère pas, qui n'a pas besoin de plus, n'a pas besoin de la galoute. Il peut quitter le bateau. Pourquoi est-ce qu'il supporterait la galoute? La galoute, c'est fait pour pouvoir revenir. Tu enseignes pour pouvoir exercer. T'as pas envie d'exercer, c'est pas la peine d'apprendre. Ça veut dire que les difficultés du peuple juif dans la galoute, dont on a dit c'est la fonction rédemptrice, c'est donc les tourments que Dieu amène au peuple juif, tout ça c'est à cause de l'attachement du peuple juif. Sans l'attachement du peuple juif, on ne peut pas jouer à ce jeu-là. Ça veut dire que pour mettre le peuple juif en galoute, il faut d'abord compter dessus. Quelqu'un qui est d'accord d'assumer des difficultés, c'est parce qu'il espère autre chose. C'est la raison pour laquelle est écrit dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, qu'à la fin de toutes les questions qu'on posera à l'homme le jour où il sera jugé par Akadosh Baruch Hu, on va lui poser une dernière question. Sipita li Yeshua. Est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu as espéré? Le tzapot, c'est plus qu'espérer. Tsofé, c'est celui qui va regarder si ça vient. C'est le guetteur. Est-ce que tu as guetté la Yeshua? Et quoi, c'est quelque chose qui est bizarre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on demande à la maman? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Comment tu as fait de mitzvot? Comment tu as étudié? Comment tu as fait de bien? Comment tu as fait de mal? Comment... Bon, alors on comprend, il rend compte. Mais après on lui dit, voilà une question. Question, ça veut dire qu'il doit rendre compte là-dessus aussi. Est-ce que tu as guetté la délivrance? Quel rapport? Le rapport, il est simple. C'est que celui qui n'espère pas autre chose, tout ça, ça n'a pas de sens. Si tu n'espères pas autre chose, ça veut dire que même si tu t'es bien conduit, donc on demande à l'homme, si Pita le choix, est-ce qu'il te manquait pas quelque chose? Ça veut dire que le juif de la galoute, on lui demande, est-ce que ça te manque pas, Eretz Israël? Si ça te manque pas, c'est que tu as transformé le dibour en amira aussi. Ça n'a plus de but. Alors, ça n'a plus de sens non plus. La même chose, la deuxième interprétation du Midrash. Tous les tsarotes que nous subissons des peuples, c'est à cause de l'attachement que nous avons à Kadosh Baruch Hu. Tiens, dis-moi, quoi ça le gêne? Parce qu'il est insupportable de vivre avec les deux directions. Je ne peux pas, moi, passer ma vie à être soumis à un ordre et à vouloir développer ce même ordre, et voir des gens à côté qui sont indifférents à ce genre de choses-là et qui espèrent autre chose. Pourquoi? Parce que je sens, quelque part, qu'un jour ils vont m'avoir, je vais me faire avoir quelque part. On n'aime pas ça. C'est insupportable. Ce que moi je pense être le sens de la vie, l'intérêt dans la vie, les besoins de la vie, ce que l'on décrit comme étant l'attachement au Mahamarot, l'autre il n'en éprouve pas l'intérêt. Ça veut donc dire que pour lui, mon but, ça n'est qu'un moyen. Ce que moi je pense être le sens des choses, l'importance des choses, ça n'est qu'un moyen. Et ça, c'est terrible parce que j'ai l'impression, moi, d'avoir affaire à quelqu'un qui me regarde dehors et qui vit dans une autre dimension. Donc ça fait peur. Il y a une fois quelqu'un, un grand personnage, qui m'a demandé d'où vient l'indifférence du juif à la chose publique. Pourquoi ? Et chaque fois qu'un juif s'engage dans la politique, alors il parle judaïsme liberté, judaïsme socialiste, judaïsme machin, judaïsme truc. Mais tu peux pas être un socialiste normal. On sent une indifférence à la cause publique. Alors, j'avais pas d'autre réponse que de lui dire, hein, voilà. Imaginez-vous, vous êtes dans une salle d'attente. C'est vrai que la salle d'attente, elle n'est pas jolie. Elle est abîmée. Mais vous attendez. Et vous voyez un type qui attend comme vous dans la salle d'attente, mais il est venu avec des papiers peints. Il est venu avec un seau de peinture. Et il commence à ranger la salle d'attente. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Pour le peu de temps que tu passes dans cette salle d'attente, qu'est-ce que ça peut te faire que les papiers peints soient comme ça et que la peinture soit comme ça? Le juif, c'est celui qui sait qu'un jour on va lui demander « Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as guetté quelque chose d'autre ?» Si tu guettais quelque chose d'autre, tu étais beaucoup moins préoccupé par aller installer l'eau chaude, l'eau froide dans une salle d'attente. Ça, c'est la différence. Et la différence, elle est énorme. Parce qu'elle fait qu'on peut être préoccupé par les mêmes choses, mais la dimension qu'on donne aux choses, par ces mêmes choses-là, dans ces préoccupations-là, elle est tellement différente qu'on peut faire exactement les choses de la même chose, de la même façon, et l'autre vous prend pour un danger. Il faut comprendre encore, c'est que normalement, nous n'avons pas d'autre expression, nous, que la logique, la parole. Et même notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est ou par le dibour, ou par la Amira. Quand il s'agit de relater un événement, ou de parler de ce qui s'est passé, ou de penser de ce qui s'est passé. On a deux possibilités. À Pessah, il y a la Haggadah, on raconte. À Purim, il y a la Megillah, on lit. À Hanouka, non. Hanouka, il y a quelque chose de bizarre. On allume. D'où ça vient? Il est écrit dans la Gemara que Purim nitan likatev. Ça veut dire que la Megillah de Esther fait partie du Tanakh, de la Bible. Nitan likatev. Les Chachamim m'ont permis que cela fasse partie de ce qu'on appelle les Kitvei HaKodesh, le Tanakh. Ok. Chanukah lo nitan likatev. Mais Chanukah, on n'a pas permis d'écrire. Il y a bien un livre, ça s'appelle le Sefer HaChashmonaim, le livre des Asmonéens. Lo nitan likatev. Pourquoi? Là, il faut savoir ceci. La dernière galoute, la galoute d'Edom, le midrashique, elle se terminera par le fait que Edom, c'est Esav, et que Esaü a ceci envers Yaakov, qu'il se targue, lui, d'être le vrai Israël. Ça veut dire que la galoute d'Edom, ça n'est pas seulement d'attaquer celui qui est Israël, c'est de l'attaquer avec l'argument, s'il y a un Israël, alors c'est moi. Omrim anu Israël. C'est la raison pour laquelle c'est dans leur galoute que, dit le Midrash, Emarzirim atar al Yoshna, c'est dans leur galoute qu'aura lieu l'apparition du Mashiach, pour bien leur montrer qui est Israël. La quatrième galoute a sa source dans la troisième. Pourquoi ? Parce que sur le mot Chosher, obscurité, dit le Midrash, le jour le plus obscur qu'il y a eu pour le peuple juif, c'est le jour où le roi Ptolémée a demandé et a obligé 70 sages à traduire la Torah en grec. Ça, c'est le jour le plus obscur. Ema v'chashecha, chashecha, c'est le jour, c'est le 8 Tevet, où la Torah a été traduite en grec. Ok. Il faut savoir que la Torah écrite, elle ne nous appartient déjà plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'explication de Torah écrite sans Torah orale. Tout le monde comprend ça. Mais l'écrit, n'importe qui peut se l'approprier et lui donner la signification orale qui sort de l'écrit. À partir de ce moment-là, on comprend pourquoi la Torah orale n'a pas le droit d'être écrite. Et même si Rabbi Yehuda HaZaken, au moment de la destruction du deuxième temple, a écrit la Torah orale, qui est la Mishnah, il lui a laissé la forme orale. C'est-à-dire que souvent dans les Mishnahs, il manque une partie qui est récité après dans la Gemara selon l'enseignement qui restait de la Torah orale. Souvent les Mishnayot sont tronquées d'une certaine façon. La Gemara c'est encore pire. 100 mètres, quelqu'un peut étudier la Gemara, il ne comprendra rien. Et même s'il comprend le pshat, il comprend la traduction, mais il n'arrivera pas à comprendre la façon dont les Chachamim ont expliqué la Gemara. Il n'arrivera pas à en tirer la halakha. On a déjà observé que dans l'histoire de nombreux non-juifs se sont occupés de la Torah écrite. Et ils se sont occupés de la Torah orale, de la Mishnah et de la Gemara. Mais de la Mishnah et de la Gemara, ils n'ont jamais rien sorti de valable. Alors que de la Torah écrite, ils ont sorti des théories. Chacun son truc. La Torah orale, c'est ce qui appartient au peuple juif. C'est justement l'histoire de Hanouka que de comprendre que c'est à ce moment-là, au moment où la pensée juive est attaquée. Comme dit le Maharal de Prague, c'est la galoute de la Chorma, des Chachamim. On s'est attaqué aux Chachamim à ce moment-là. On ne s'est pas attaqué aux petits juifs parce qu'ils faisaient telle et telle mitzvah. Ça, ça ne dérangeait pas. La première chose qu'on a interdit, c'est le limud Torah. À partir de ce moment-là, on comprend que ce que possède vraiment le peuple juif, c'est ça que la Gemara dit dans le traité de Kiddushin, « Lo karat Hashem britim Israël, et la Torah shebalpé. » L'alliance entre Dieu et Israël, n'est valable que par le don de la Torah orale, pas par le don de la Torah écrite, par le don de la Torah orale. Donc on peut comprendre que les Chachamim ont voulu tout faire sauf écrire. Parce que c'est à ce moment-là que commence la galoute de la pensée juive. Et là, il faut remarquer une chose. C'est que cette pensée juive, elle n'existe que si elle fait découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités au peuple juif. Penser pour penser, ça n'a pas un grand intérêt. Chaque fois que vous verrez dans l'histoire que le non-juif se préoccupe de pensée juive, ça veut dire que c'est une pensée juive qui est stérile, c'est simplement jongler, c'est une pensée juive de l'extérieur. Mais ça n'est pas une pensée qui amène au maasé, qui amène au changement de la personne. Parce que si ça amène au changement de la personne, alors c'est un danger pour l'autre. C'est pour ça que dans toutes les périodes où la pensée juive est très appréciée, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on arrive à un temps où les choses s'effilochent, sinon ça ne serait pas apprécié. Parce que la pensée juive, ça oblige la personne. Je ne peux pas penser d'une certaine façon et toujours agir dans le sens contraire. C'est impossible. Et si j'y arrive, alors c'est pas de la Torah. C'est que cette pensée, elle est en galoute. Et comme elle est en galoute, elle est à la merci de tout le monde. C'est ce que nous appelons en hébreu le or. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant. Où a disparu la lumière qui a été créée au moment de la création? Vayei or. Puisque le soleil n'a été créé le troisième jour. Donc pendant trois jours, il n'y avait pas de lumière. Qu'est-ce que c'était ce or? La Gemara répond. Le or, la lumière qui a été créée, elle permettait à Adam Arishon, à Adam, de voir Misof Haolam Vatsofo. Il pouvait voir le monde entier. Voir, évidemment qu'il ne s'agit pas d'avoir une super longue vue ou un super télescope. C'est une autre dimension dont on parle. Donc là, où elle a disparu sa lumière. Keivan Shera Kadosh Baruch Hu She Tzadikim Muatim. Dieu sachant que les tzadikim seraient prénombreux, Amad Veganaz. Il a pris cette lumière et il l'a cachée. Demande la Gemara, Eichan Gnazo. Où est-ce qu'il a caché cette lumière? Répond la Gemara dans la Torah. Voilà où la lumière est cachée. Attention, là, il faut bien faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait une lumière et qu'elle a été cachée, qu'elle est cachée dans la Torah? Ça veut dire que le monde est réduit au Mahamarot. La nature est là pour cacher tout ce que le monde me révèle de la conduite divine et qui est perceptible à l'homme. Imaginez-vous que les lois de la nature changent selon les saisons. On dirait que c'est naturel. Mais si ça changeait une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines, une fois tous les 20 jours, on dirait là c'est surnaturel. Chaque fois qu'on n'arrive pas à déterminer de loi, on dit c'est surnaturel. On appelle ça un nes. Le nes, c'est lorsqu'il y a des trous dans ce rideau qui est les lois de la nature et qui permet à la conduite divine d'être perçue. C'est ce qu'on appelle le nes. Traduisez ça, miracle, comme vous voulez. Normalement, les lois de la nature sont là pour me cacher toute intervention divine dans le monde. Mais l'histoire a été écrite ainsi par Akadosh Baruch Hu qu'il y a des endroits où ça perce. On appelle ça l'Enissim. C'est le Nes. Ça perce. Mais non, ça perce pas toujours pour tout le monde. Quelquefois, ça perce pour tout le monde. C'est ce que nous appelons le or. En vérité, il est bien enfoui. Mais vous allez comprendre. Le Ramban Nachmanide dit ceci. Il n'existe aucune mitzvah de la Torah qui tient en compte le nes, le miracle. Tu n'as pas besoin de miracle pour accomplir les mitzvahs de la Torah. Il n'existe aucune mitzvah de la Torah qui ait besoin d'un miracle pour être accompli. Il est apparu une seule chose. La paracha de la sota. La sota, c'est le problème de la femme infidèle. Que l'on fait boire une eau, qu'on a fait passer sur le Sefer Torah, et qui est là pour prouver faute ou pas faute. Dit le Ramban, c'est la seule fois où tu as besoin d'un miracle pour pouvoir accomplir une mitzvah. Il dit pourquoi ? Parce que ça touche à la mamzerut, ça touche à la sainteté du peuple juif. Il dit c'est la kedusha du clan d'Israël, et c'est la condition sine qua non de la Shrina, de la présence divine. C'est la seule fois. Et puisque c'est une condition sine qua non de présence divine dans le peuple juif, la pureté de la famille, alors, on a besoin du miracle. Voilà ce qui est écrit dans le Ramban. Tout le monde connaît, il y a une exception. Le Ramban lui-même, il explique dans la paracha de la menorah que lorsqu'on allumait la menorah, il y a marqué le Ha'alot Ner Tamid. La lumière devait être Tamid. Demande le Ramban, Tamid, c'est jamais tout le temps. Tamid veut dire éternel, pendant tout le temps. Il en allumait le soir. Et ça s'éteignait le matin. Et on rallumait le soir. C'est pas tamide. Dit le Ramban, c'est ça ce que dit la Gemara dans le traité de Mnachot. Tamid zener ma'aravi she'adoleg b'chol yom. Chaque fois qu'on venait à la menorah le matin, bien qu'il y avait la même mesure d'huile dans toutes les nérodes de la menorah, le ner ma'aravi, le ner qui était situé à l'ouest, brûlait et continuait à brûler seul jusqu'au soir. Zemer Maharavi, il dit le Kayem, c'est pour que l'on puisse accomplir la mitzvah qui est marquée, le Halot Ner Tamid. Voilà, il y a un Ner qui est Tamid. Ah, pourtant tu m'as dit que dans aucune mitzvah de la Torah, on ne devait tenir compte d'un miracle. Et là, la mitzvah d'allumer la menorah, elle ne sera pas entière puisqu'il manquera Tamid. Si le nerf maravi ne brûle pas plus que les autres, et le fait qu'il brûle plus que les autres, c'est quelque chose d'anormal. Comprenez? Ça, c'est la question sur le Ramban. La réponse, elle est peut-être celle-ci. Ça a été écrit dans un livre qui s'appelle le Pachad Yitzhak, il dit ceci. Attention. dit le Ramban a bien dit que la seule condition pour laquelle il est fait une exception, c'est lorsque on a besoin que la Shrina réside dans le peuple juif. Comme dans le cas de la sota du problème de Mamzerut. On doit savoir chez nous qui est le fils de qui est la fille de qui. Ça, c'est la condition de la Kedusha du Klal Yisrael. Sans ça, il n'y a pas de continuité. Le garant de la continuité, c'est le bon Dieu, c'est pas nous. Donc dans cette mitzvah-là, doit intervenir le miracle. Et bien dans la Gemara, justement dans le traité de Mnachot, la Gemara demande. Elle dit, le Ner Maharavi, le fait que chacun qui allait dans le Beit HaMikdash pouvait voir que le Ner qui était situé à l'ouest ne s'éteignait jamais, Edut'i le chol ba'olam, c'est un témoignage pour tous ceux qui viennent chez Shrina Shora b'Israël, que la présence divine existe dans le peuple juif. On va essayer d'expliquer. Nous on a dit le or, cette lumière qui existait, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, elle a été cachée. Et c'est celle-ci qu'on perçoit dans ce que nous appelons le Nes. Quelquefois, ça transperce. Ça a été caché, pourquoi? Pour le monde futur, là, t'il la vaut? Où est-ce que ça a été caché dans la Torah? Si on dit que ça a été caché dans la Torah, c'est pas que on a pris le Sefer Torah, on l'a caché dedans. C'est que les mitzvot de la Torah permettent d'arriver exactement au même but que permettait ce or. C'est ça ce que ça veut dire quand on dit caché. C'est pas qu'on l'a caché pour embêter quelqu'un. À partir du moment où les mitzvot de la Torah permettent d'arriver à ce or de la même façon, si une porte m'est ouverte, j'ai pas besoin de clé. Donc il est normal que la mitzvah n'ait pas besoin de ce or pour exister. Puisque l'homme arrive au même but, ou avec ce or, ou avec la mitzvah. Donc c'est pour ça que le Ramban dit, il ne peut pas exister une mitzvah de la Torah qui ait besoin d'un miracle pour être accompli. Parce que s'il y avait besoin, ça voudrait dire que l'or, il n'a pas été caché dans la Torah. Et si ce or est caché dans la Torah, ça veut dire qu'à travers la mitzvah, tu peux arriver au même résultat que te donner ce or-là. Donc si tu peux arriver au même résultat, tu n'en as pas besoin de ce or. Au contraire, à part lorsque la mitzvah consiste à faire résider la présence divine dans le peuple juif. Ça, ça n'est déjà plus l'affaire du juif au moment où il accomplit la mitzvah. Ça, c'est l'affaire de la Shrina. Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait ici une porte, un interstice qui soit un petit peu ouvert, pour qu'on puisse voir que la Shrina réside dans le peuple juif. Donc maintenant, on comprend pourquoi dans la menorah, comme la mitzvah de la menorah de Tamid, c'est pour montrer que la Shrina, la présence divine, ne quitte pas le peuple juif. Justement, dans cette mitzvah-là, on est obligé de tenir compte du miracle. Sinon, on n'accomplit pas la mitzvah. Ce qui a marqué la Lotner Tamid. C'est la raison pour laquelle Chachamim Hanouka n'ont pas institué de Megillah, ne sont pas venus nous dire parle. Parce que cette fois-ci, ça passe plus par la parole. Parce que le galout de Yavin, justement, c'est que vont déposséder le peuple juif de ce qu'il a. De lui montrer que sa chorma, lui, elle fait aussi partie de l'Amira, elle fait partie des autres chormotes. Les Nechachamim, ils disent, maintenant, c'est plus le moment d'écrire. Chanukah lo nitan likatev. On n'a rien permis que ce soit écrit, c'est pas comme à Pourim. Mais on va te demander une autre chose. De même qu'on allumait la menorah dans le Beit HaMikdash, toi aussi tu vas allumer la menorah. Et c'est ça la Hidout, c'est ça le témoignage que la Shrina Shorah b'Israël. Le témoignage par écrit, on va te l'enlever, on va te le dénaturer, on va te l'interpréter, on va te dire c'est naturel. Quelquefois, les petits gagnent. Ils sont plus forts dans la guérilla. Comme les gens vous disent, le Hananissim, ça, vous avez pris parti. Ce qui a marqué, Masarta Giborim Ben Khalashim, l'effort dans la main des faibles. C'est arrivé souvent dans l'histoire. Lorsque les petits savent faire une belle guérilla, on peut avoir des forts dans la main des faibles. Et puis, qui c'est qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath? Même le plus fort, il a un petit point où lorsqu'on le touche, il tombe. On n'a pas besoin toujours d'être le plus fort pour gagner. Rabim Be'admati, ceux qui sont nombreux dans la main de ceux qui sont peu. Ça aussi, c'est arrivé dans l'histoire. Récemment, on a vu quelques refus, ni qu'on fait balancer tout un système communiste. C'est Rabim Be'admati. Tomeim Be'adorim, l'impur dans la main du pur. Pourquoi le pur, il doit toujours, toujours perdre? Laisse-le une fois gagner. C'est pas si grave. Roshaim et Tzadikim. Le rachat dans la main du tzadik, de nouveau. Pourquoi le tzadik doit toujours perdre? Une fois dans l'histoire, il gagne aussi le tzadik. C'est pas grave. Quand il faut bien exception à la règle. Où il est le Nes? Le Nes, il n'est pas là-dedans. La preuve, c'est que si je t'avais écrit ça, tu m'aurais dit comme à Pourim. À Pourim, on fait une pièce de théâtre. Tout le monde est content. C'est l'histoire qui arrive. On peut renier l'interprétation de chaque chose. Parce que l'interprétation, c'est justement de voir le dibour à travers le Mahamar. Dans la plus belle histoire, quelqu'un peut voir ici un dibour. Ça s'adresse à moi. Et l'autre, il peut dire, ben, c'est une belle histoire. Ça arrive. C'est pas grave. Est-ce qu'on perçoit un dibou ou on le perçoit comme un mahamar? Si tu perçois un mahamar, ça veut dire que le monde a écrit quelque chose. C'est bon, alors. Si tu perçois un dibou, c'est que ça s'adresse à toi. Mais où tu le perçois ou tu ne le perçois pas. Que nous fêtons en Hanouka, c'est pas la victoire, c'est que la victoire est menée à ce que la menorah de nouveau s'accomplisse un miracle dans l'allumage de la menorah. C'est ça que nous fêtons. Et la victoire militaire, on fait pas. C'est ça le sens que les Chachamim ont voulu donner à la fête de Hanouka. La fête de Pourim, c'est donner l'interprétation. Tu vois le bon Dieu dans cette histoire, c'est ton affaire. C'est ta mama. Tu crois que le bon Dieu s'adresse à toi à travers ça? C'est d'imagination, c'est bien. On va te voler encore une fois ton histoire. Hanouka, on ne peut rien me voler. Parce que ce qui s'est passé, c'est Edout, c'est le témoignage que la Shrina elle est dans le peuple juif. La seule chose qu'on peut faire, c'est nier. Mais nier, c'est jamais grave. La seule chose qu'on peut me dire, c'est l'invention. Tu crois vraiment qu'avec une petite feuille d'huile, ça a duré 8 jours? Arrête. Ok. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que la négation n'enlève jamais rien à la croyance. Moi, je sais que si les Chachamim m'ont raconté une histoire comme ça, ils ont institué ça, c'est vrai. Ça m'interpelle. Nier, c'est pas grave. Parce que la négation, c'est une volonté personnelle. Et la volonté de quelqu'un, c'est la sienne. Elle n'a rien à voir avec la mienne. On peut nier. Mais lorsqu'on vient, on me dit, mais dans le texte, c'est pas marqué. Ça, c'est déjà beaucoup plus grave. Ça veut dire que ton support, c'est pas un support. C'est vrai que c'est pas un support. C'est pour ça que la Gemara dit, « Lo karat Hashem britim Israël et la Torah shebalpe » L'alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah orale, pas la Torah écrite. Mais c'est quand même dérangeant. C'est-à-dire que le type prend ma propre histoire, il me dit que je ne sais pas l'interpréter, que ma référence est fausse. C'est pas de la négation, ça. C'est bien pire. Parce qu'on m'enlève mon support. Ça veut dire que l'écrit, il est devenu de nouveau oral. J'ai perdu l'écrit. Et c'est vrai qu'on l'a perdu. Et c'est dommage de l'avoir perdu. Parce que dans l'écrit, il y a une valeur qui n'est pas celle de l'histoire. On peut très bien lire la Torah comme une histoire. Voilà, il y a marqué ceci, il y a marqué ça, les mitzvot. Mais la Torah, ça se lit à l'inverse, ça se lit au contraire, ça se lit d'en haut, ça se lit d'en bas, ça se lit codé, ça se lit décodé, ça se lit tout état. On ne doit pas perdre l'écrit. Et on le perd. Mais à Hanouka, on ne peut rien enlever. Parce que la lumière, elle est là, on ne peut pas l'enlever. On peut la nier. Ça, c'est pas grave. Nier, c'est toujours vis-à-vis d'un trait, d'un tiers. C'est jamais vis-à-vis de moi. Moi, je pense quelque chose lorsque l'autre dit non. Alors, j'arriverai peut-être pas à lui envoyer mon message. Vis-à-vis de moi, c'est pas grave. La fête de Hanouka, on ne peut pas nous la prendre. La fête de Purim, on en a déjà pris. Pour ça, quand on prend l'entrée, on voit des gens, ils nous disent, on a autant que vous de la fête de Purim. Sauf que c'est au théâtre français, et là, c'est à la synagogue. Mais la fête de Hanouka, on ne peut pas la prendre. Parce que l'histoire de Hanouka, ce n'est pas notre problème. L'histoire de Hanouka, c'est le prétexte. C'est la façon dont ça s'est dévoilé. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Allons-y pour les questions. Alors je vais vous dire, 40 ans dans le désert, ça n'est pas une galoute. On va expliquer pourquoi. Parce que les deux sens de la galoute n'y sont pas. Le peuple juif était protégé dans le désert de façon à ce que rien ne pouvait l'atteindre d'aucun côté. Non seulement ça, tout était alpinès. La nourriture c'était alpinès, la boisson c'était alpinès, les vêtements c'était alpinès, Simnatra lo valta mi'alecha, Raglecha lo botseka, il n'y en a pas un seul qui a une ampoule au pied. Donc l'oppression de la galoute n'était pas là-bas. La fonction rédemptrice de la galoute, elle n'était pas là non plus. Parce que le sens des 40 ans dans le désert, c'était jusqu'à ce que meure la génération de ceux qui avaient suivi les explorateurs, de ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ça veut dire que quoi? Au lieu d'enlever toute une partie du peuple juif et dire, bon, les autres, on va rentrer tout de suite, ceux-là, on va les liquider. On a vécu jusqu'à ce que le sommeil. C'est comme si on est à quelqu'un, bon. Il y en a qui t'empêchent de rentrer dans le Israël. On va attendre gentiment qu'il s'en aille. C'est tout à fait différent. C'était pas pour éduquer ceux qui n'avaient pas fauté, puisque ceux-là sont nés dans le désert, ils n'avaient pas fauté de toute façon. Il n'y a pas besoin d'être éduqué. Et ceux qui ont fauté ne sont pas rentrés dans l'Israël. Donc les deux fonctions de la galotée ne sont pas là. Ouais.
La fonction rédemptrice, la nécessité, alors, les gens qui sont en galotée, en fin de compte, il y a un taux d'assimilation qui est énorme, je pense que ça nécessite la disparition, en fin de compte, de cette fonction rédemptrice de 50% du peuple juif.
Alors là, il y a deux possibilités. D'abord, il ne faut pas croire que l'assimilation, c'est un problème de la galoute. C'est un problème de liberté. On va peut-être dire même le contraire. La galoute, ça restreint les possibilités d'assimilation. C'est-à-dire celui qui croit que parce que le peuple juif va être sur sa terre, il sera plus libre et chacun ne pourra pas être comme il a envie d'être, c'est pas vrai. Ni les voyages en avion sont interdits, ni les frontières seront obligatoirement fermées. Le fait d'habiter en Eretz Israël pour le peuple juif, c'est pas pour mettre le peuple juif en conserve et le priver de liberté. C'est pas du tout pour ça, c'est le contraire. C'est pour qu'il puisse exercer toute sa liberté. Donc ça ne résout en rien le problème de l'assimilation. C'est une grave erreur de penser que c'est Eretz Israël qui résout les problèmes d'assimilation. C'est le juif qui doit résoudre son problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que l'assimilation, c'est un phénomène relativement récent dans la galoute. Et que ce phénomène existait déjà avant. Et qu'il y a eu des juifs en dehors d'Eretz Israël, même lorsque la majorité du peuple juif était en Eretz Israël. La plus grande synagogue de tous les temps existait au moment du Second Temple. Elle était à Alexandrie. Donc il ne faut pas croire non plus que historiquement ce soit la galoute qui ait permis l'assimilation. Je veux dire, c'est même le contraire. C'est que plus il y a de galoute, plus il y a d'antisémitisme. Et plus il y a d'antisémitisme, moins il y a d'assimilation. Pas plus l'un que l'autre. Dire pire que ça. On ne peut pas isoler l'événement militaire de l'histoire de la fiole d'huile. On n'a pas de source qui permet d'isoler l'un de l'autre. Ce qui est marqué dans la Megillat Taanit, que après le Nes de la Menorah, le Shana Acheret, l'année d'après, on a fixé Hanouka d'allumer les bougies et de dire l'année similaire. Donc tout est venu en même temps. De dire que l'un est plus que ça et l'autre est plus que ça, non.
Le but du peuple juif, c'est quand même faire connaître la cage de Zoharo. Est-ce que la galoute est là-bas aussi ? Ce but-là, à part la rédemption du peuple juif lui-même, est-ce que c'est pas aussi quelque part de gentilfusion ?
Voilà, alors je vais vous dire non. Pourquoi ? C'est la forme que nous connaissons de la galoute qui a ce but-là. Il y a une Gemara dans le traité de Psachim qui dit que la raison pour laquelle le peuple juif a été envoyé dans la galoute, mais attention, d'une façon qui était nite paser, il a été disséminé, c'est pour que des non-juifs puissent se convertir. C'est-à-dire qu'il y ait plus de non-juifs possibles qui sont en contact avec le peuple juif. Mais ça, c'est la forme de cette galoute-là. Vous aurez pu imaginer une galoute avec une oppression, je ne sais pas moi, à Madagascar, enfermés tous, ça aurait été aussi la galoute. Et là, il n'y aurait pas eu de guérison. C'est la forme de la galoute qui est la dispersion, qui est pour cette raison-là. Mais la galoute elle-même, non. C'est pas que je nie, c'est que c'est imprégné de ce que nous appelons la Avodah Zara, l'idolâtrie. C'est-à-dire les dieux, les demi-dieux, les quarts de dieux, la mythologie. C'est ce que nous appelons Avodah Zara, l'idolâtrie, le culte étranger. D'accréditer une force à quelque chose qui n'est pas le Dieu unique, c'est une soumission à des forces naturelles qui n'existent pas chez le peuple juif.
Comment ça, quand vous parlez de Socrate, il ne parle pas de son panthéon, il parle de Dieu, justement.
Absolument. Donc, seulement, il parle de Dieu, de nouveau, en tant qu'amira, c'est-à-dire en tant que nature, pas en tant qu'avenir ou élévation. C'est-à-dire que c'est pas que il y a une mitzvah avec un choix, il y a un devenir. Parce que sinon, si quelqu'un pense que plus il s'efforce dans ce monde et plus c'est générateur d'un avenir, alors il doit désespérer de le quitter. Le Ramban, justement, Nachmanide, dans la Hagdama, dans la préface d'un livre qui s'appelle Torah Ta'adam, il dit ces deux choses de Socrate, qu'il ne voulait pas vivre et qu'il n'avait pas peur de mourir. Il dit la mort, c'est le fait d'être figé. C'est quelque chose qu'on doit repousser le plus longtemps possible. C'est pas quelque chose qu'on doit accepter. Parce que si on l'accepte, ça veut dire qu'on est soumis à certaines lois, elle arrive un jour et puis tu t'en vas.
Mais sa façon de mourir, c'est une façon de vivre après. Parce qu'il est mort physiquement, c'est... vous en parlez encore de sa mort.
Attention. Le fait que nous parlons de sa mort, ça n'est pas pour dire que c'est quelque chose dont nous apprenons, au contraire. C'est pour montrer le côté péjoratif. Alors, ça c'est aussi important. On ne peut pas dire Hitler aussi, c'est une forme de vie. La preuve, c'est qu'on en parlera longtemps. On en parlera toujours, et c'est une forme de mort. C'est pas une forme de vie. Non, mais attention, moi je n'en parle pas dans le terme en pensant que c'est quelque chose de... on va dire... de révélateur de quelque chose de grand. Pour moi, c'est quelque chose de révélateur de ce qu'il y a de plus petit au monde. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas saisi aucune des occasions de la vie. Ça veut dire que le fait d'étudier, d'être un sage, ça peut mener au maximum à ce que nous appelons l'apikoros. L'apikoros, qui vient du mot épicurien, veut dire que la soumission totale aux lois de la nature fait qu'à la fin, la seule façon de s'en sortir, c'est d'être un insoumis total, c'est-à-dire de rechercher la mort. Mais pas de rechercher la mort en tant que rédemption, c'est de rechercher la mort parce qu'on est au-dessus de la vie. Alors que chez nous, c'est exactement le contraire. La Torah nous demande de rechercher la mort en tant que continuité et résultat de la vie. Ça veut dire que celui qui, comme Épicure, se prive de tout pour ne pas être soumis, c'est qu'il n'a pas encore commencé à vivre. Il est toujours mort. C'est-à-dire que si la sagesse arrive de dire au sage, tu dois être détaché de tout, ça veut dire que tu es mort vivant. Alors que la Torah nous demande le contraire. Elle nous demande d'utiliser tout ce qui existe dans la nature pour trouver une dimension spirituelle qui nous permette de dépasser la nature. Mais pas de se passer de la nature. Et si je ne trouve de sens que dans le fait de me passer des choses parce que elles n'ont pas d'importance, donc il dirait la vie ça n'a pas d'importance, il faut voir plus loin que ça, c'est totalement faux. Ça voudrait dire que le cadeau que Dieu m'a fait, qui est la vie, il est zéro. Moi ce que j'attends c'est après, mais pas du tout. Ce après, je veux qu'il vienne le plus longtemps possible, comme ça je serai le plus grand possible. Et plus vite ça vient, et plus j'ai perdu. Et ça, c'est une notion qui est totalement inverse de la notion de non seulement de science, même de philosophie.
C'est sa vérité, en fait.